www.libradio.org. La station debout.
Voilà, alors nous sommes le 28 octobre ici à l'Almacène, en plein cœur des grottes, en compagnie de Paolo Gilardi. Bonjour à toi.
Bonjour.
Et merci de prendre du temps et de venir nous expliquer un petit peu le sujet, l'objet de ces trois conférences dont on va parler tout de suite. Avant cela, eh bien, je voulais commencer avec une petite citation que l'on trouve par ailleurs partiellement sur le site du GSSA, gssa.ch. Donc l'acronyme désigne le groupe pour une Suisse sans armée, dont à l'époque tu étais ici à Genève et pour toute la Suisse romande d'ailleurs, un repère, un pivot. Mais tu nous en diras plus. Alors voici cette citation. Début novembre 1989, le mur de Berlin tombe suite aux réformes en Union soviétique et à l'exode des Allemands de l'Est, des Hongrois et des Tchécoslovaques vers l'Ouest. En Suisse, pays de tradition militaire, l'initiative pour une Suisse sans armée et une politique globale de paix à court. Le jour, le fameux jour de la votation, le 26 novembre 1989, le résultat tombe, incroyable, 1 052 218 citoyennes et citoyens, égal à 35,6% des votantes et des votants, ont dit oui, avec une participation record. Genève et le Jura acceptent l'initiative, c'est un formidable séisme politique. Voilà pour commencer cet entretien. Alors, Paolo Gilardi, voudrais-tu en quelques mots te présenter? Et puis ensuite, nous reviendrons sur les jalons qui ont mené, tu parlais de maïotique tout à l'heure, qui ont mené à cet accouchement.
Oui, donc Paolo Gilardi, je suis militant depuis depuis ma plus tendre jeunesse, donc ça fait 45 ans que je me suis engagé de manière militante, aussi bien dans tous les mouvements anti-impérialistes, anti-nucléaires et anti-militaristes, et dans le mouvement syndical. Dans les années 80 jusqu'à en gros la fin des années 90, j'ai été un des activistes qui ont donné le plus de temps au GSSA, à cette formidable bataille pour l'abolition de l'armée. Voilà en quelques mots qui je suis. Actuellement, je suis à la retraite, mais ça me laisse le temps aussi de revenir justement sur cette période, parce que j'ai l'impression que on a essayé très très vite d'oublier ce qui s'était passé le 26 novembre 89. Et le 26 novembre 89, c'est vraiment un véritable tremblement de terre qui a fait changer beaucoup de choses dans ce pays. C'est la raison pour laquelle maintenant le GSSA organise ces trois conférences. La première ce jeudi soir à 20h. La suivante, elle aura lieu le mercredi 13 novembre, toujours à 20h et toujours au café Gavroche. Et enfin, une troisième soirée, le 26 novembre lui-même, moment de célébration, de commémoration. Les trois soirées, la première va porter sur cette période qui a précédé la votation, cette période dont on dit que c'était celle de la Suisse qui était une armée, et la deuxième soirée portera sur le fait, sur la Suisse qui n'est plus une armée, celle d'après 1989.
Alors toi-même, tu te chargeras de la présentation de la première soirée, et ce sera pour la deuxième soirée de Tobias Schneebly qui s'en chargera.
Exactement.
Et pour la troisième, ce sera conjoint.
Et la troisième sera un moment de confrontation entre les mouvements sociaux de l'époque et ceux d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y aura des représentants du GSSA et de Contratome, qui étaient les mouvements qui avaient fait un peu pignon sur rue à l'époque, et il y aura des représentants du mouvement pour le climat, de la grève des femmes et des mouvements de soutien aux mineurs non accompagnés, aux migrants, qui seront dans la même salle pour discuter de la nature de ces mouvements hier et aujourd'hui et de la continuité entre ces mouvements.
On va juste rappeler très trivialement que donc l'entrée est libre, il y a un chapeau à la sortie pour les frais qui sont induits par cette organisation-là, que les conférences, elles ont lieu effectivement toutes à 20h au Café Gavroche, que celui-ci se situe au 4 boulevard James Fazi, ici à Genève, c'est à 5 minutes de la gare.
Voilà, c'est ça, exactement.
Alors revenons-en à ces jalons, on en a parlé un petit peu avant. Cette idée ne naît pas, ne tombe pas du ciel, elle s'est façonnée au travers du temps et au travers effectivement d'une Suisse qui dès le début était extrêmement militaire, on l'a dit, en tout cas organisée de manière à ce que, eh bien, de manière martiale pourrait-on dire. Et c'est au travers des époques qu'à un moment donné, eh bien, le cours de l'histoire a fait qu'a émergé cette idée, disons, de dépassement de l'armée. Voudrais-tu nous dire quelques mots de cela?
Le 25 mai 1988, dans son message aux chambres fédérales, le Conseil fédéral écrivait Reprenez à son compte une boutade de Laura Golovchiner, l'humoriste vaudois, qui disait « La Suisse n'a pas d'armée, la Suisse est une armée ». C'était le Conseil fédéral reprenait à son compte cette boutade, mais le reprenait à son compte de manière tout à fait sérieuse, en expliquant que le pays dans lequel nous vivons est un pays qui s'est fondé, qui s'est développé sur un esprit commun, qui est celui de la défense contre, défense de l'indépendance, etc., etc., contre l'ennemi extérieur. Or, je crois que d'un côté, le Conseil fédéral avait raison, mais de l'autre côté, il se mettait complètement les doigts dans l'œil, et on l'a vu le 26 novembre, une année plus tard, parce qu'un tiers des Suisses, comme tu l'as dit tout à l'heure, ont voté pour l'abolition de l'armée. Mais c'est vrai que la Suisse, en tant qu'État moderne, et la Suisse jusqu'aux années 60 du siècle passé, était effectivement l'expression d'un rapport de force militaire. Déjà, la Suisse moderne, celle de 1848, elle est le résultat, est le fruit d'une campagne militaire, celle du général Dufour, contre les cantons catholiques, pour imposer un ordre politique, économique et militaire qui est celui des radicaux, qui est celui des pays, des secteurs industrialisés, qui est celui des banquiers. Donc, la fondation de la Suisse se fait déjà sur un fait d'armes. Par la suite, durant toute la deuxième moitié du XIXe siècle, la base sociale de ce nouvel État, ce sont les sociétés patriotiques et les sociétés de tir. Les sociétés patriotiques et les sociétés de tir défilent dans les villes les jours de fête, défilent en armes, en chantant des chansons patriotiques, et ça fait aujourd'hui, on pourrait imaginer, on pourrait faire la comparaison par exemple avec les gardes rouges qui, dans certaines situations, défilaient en soutien au pouvoir en place. Là, c'est exactement la même chose. Le pouvoir en place, c'est celui des radicaux protestants, industriels et banquiers, et il a une base, cette base, elle se manifeste dans la rue en armes. La dimension armée, elle est très profonde, très importante. À cela s'ajoute un autre élément, c'est que cette Suisse industrielle et bancaire qui est en train de se développer a besoin de liaisons internationales, elle a besoin des tunnels alpins. Et c'est là qu'on voit, en 1864, l'armée intervenir contre les ouvriers du Gothard, les ouvriers, les mineurs qui sont en train de creuser le tunnel du Gothard, et ces mineurs-là, ils ne sont pas des Suisses, ce sont des ouvriers immigrés piémontais qui viennent tomber malades dans les tunnels en Suisse et retournent mourir au pays. Eh bien, l'armée tire contre ces ouvriers en grève, elle en tue quatre, notamment, et les interventions contre les ouvriers en grève vont se succéder jusqu'au début du XXe siècle, notamment à Bâle, notamment à Lausanne, notamment à Genève en 1902. Voilà de nouveau une dimension militaire. À cela s'ajoute quelque chose qui intervient au tournant entre dans la dernière décennie du XIXe siècle. C'est face à l'émergence d'un nouvel ennemi intérieur qui n'existait pas avant, c'est-à-dire la classe ouvrière, le parti radical et les radicaux qui ont pris le pouvoir en éjectant du pouvoir les conservateurs en 1848 sont obligés de faire front et de retrouver une identité commune des classes dominantes. Et cette identité commune, on va la chercher où ? On ne peut pas la chercher dans la défaite des catholiques conservateurs en 47-48. Il faut la chercher ailleurs. Et on va la chercher dans un mythique pacte de fondation de la Confédération en 1291. En 1891, 600 ans plus tard, on invente le 1er août. Le 1er août, et c'est une véritable invention qui permet de mettre les classes dominantes de se sentir partie de la même identité qui plongerait ses racines dans une lointaine volonté d'indépendance de trois États, États des montagnes qui n'ont rien à voir avec la Suisse industrielle de Zurich ou de Winterthur de la fin du XIXe siècle ou celle de Genève du début du XXe. On cherche des origines mythiques pour se mettre ensemble parce que, à ce moment-là, vient de se fonder En 1881, l'Union syndicale suisse, et en 1891, le Parti socialiste suisse. Voilà l'ennemi qui apparaît. Donc, les classes dominantes se remettent ensemble. Par la suite, il y a une autre date qui va être marquante. C'est deux dates, 1914-1918. C'est la Première Guerre mondiale. Il faut se souvenir que, durant cette période, des millions de jeunes de 18 à 20 ans vont se faire éclater sur les champs de bataille. Ils sont envoyés comme chair à canon devant les mitrailleuses ennemies. Il y en a qui ne reviendront plus. D'autres, ils vont y laisser un bras, une jambe ou la raison dans cette guerre. Or, en Suisse, ces jeunes qui ont 18, 20 ans ont été mobilisés. On les a utilisés, évidemment, on les a fait marcher dans tous les coins du pays. Ils ont été mobilisés, mais ils sont revenus entiers. Et ça crée un sentiment d'extériorité de la Suisse par rapport au reste du monde. Il n'y en a point comme nous. On est dans ce qu'on appelle en bon français, un Sonderfall Schweiz, c'est-à-dire un cas particulier suisse. Et ce cas particulier-là va se développer par la suite. La grève de 18. Durant la grève de 18, la grève générale, l'armée est mobilisée contre les grévistes. 20 000 soldats occupent la ville de Zurich. L'armée est mobilisée pour obliger les mécaniciens de locomotives à mettre en marche les locomotives avec le flingue pointé sur la tempe. Ce n'est pas peu de choses. Mais en même temps, tout le travail qui est fait par les officines de propagande consiste à présenter la grève générale comme de nouveau quelque chose d'extérieur à la Suisse, et on parle de complot bolchevique. C'est le complot bolchevique. Donc, la construction de cette identité particulière de la Suisse qui ne serait pas, il n'y en a point comme nous, hein, cette construction-là avance avec la Première Guerre mondiale, la grève générale. Et elle se perfectionne, je dirais, en 1936 avec l'adhésion du Parti socialiste suisse au principe de la défense nationale. Il faut défendre les institutions de la Suisse, donc il faut une armée. Et une année plus tard, c'est le Parti communiste suisse qui adhère à la défense nationale et qui dit qu'il faut défendre les institutions de la Suisse, donc les institutions démocratiques bourgeoises. Hein? Voilà. Donc il y a là quelque chose qui est par la suite cristallisé par l'accord de paix du travail signé en 1937 entre les syndicats et le patronat de la métallurgie, qui revient à dire, au fond, la lutte des classes est quelque chose d'extérieur à la Suisse. Nous, on est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau, et évidemment, ces gens qui sont tous dans le même bateau après 1939, ils vont être confrontés à la guerre en Europe, qui ne va pas toucher la Suisse pour des raisons qu'on discutera par la suite, mais qui ne sont pas forcément des raisons militaires, parce que personne ne croit plus aujourd'hui que c'est la vaillante armée du général Guisan qui a fait peur à Hitler. Il lui a fallu 24 heures pour occuper la Belgique et 3 jours pour occuper les Pays-Bas et une semaine pour occuper la France. Certainement qu'il avait très très peur de l'armée du général Guisan. Bien, je reviens à ça. Vous avez un pays qui, pour la deuxième fois en moins de 50 ans, reste à l'écart de la boucherie qu'a connue l'Europe. Et de ce point de vue-là, la Suisse sort, malgré les complicités avec le régime nazi durant la Deuxième Guerre mondiale, elle sort de la Deuxième Guerre mondiale intacte, et avec la bénédiction des Américains, avec les accords de Washington en 1947, la bénédiction des Américains qui, au fond, efface tout ce qui s'était passé durant la Deuxième Guerre mondiale. Je rappelle qu'en 1946, le département d'État américain écrivait noir sur blanc, la Suisse a été la putain de la Deuxième Guerre mondiale, parce que les Américains, eux, ils y vont pas, hein, ils se gênent pas, la putain de la Deuxième Guerre mondiale. En Suisse, si on regarde, on lit par exemple la pièce de théâtre de Thomas Hürlimann sur le 8 mai 45 en Suisse, c'est extraordinaire parce que il met bien en évidence le fait que les élites en Suisse ne savaient pas où donner de la tête, parce qu'ils ont continué à faire du commerce avec l'Allemagne une année après Stalingrad. Donc c'est hein. Et en 47, avec les accords de Washington, ils ont la bénédiction. Donc, du coup, ce pays qui est une armée, hein, en sort encore renforcé. On n'est pas, il y en a point comme nous. Hein, on n'est pas comme les autres, et c'est grâce à la solidarité patriotique nationale que tout fonctionne. Tout ça, c'est la Suisse qui est une armée.
Un beau travail de propagande. Hein.
Un travail de construction, de, ouais. de construction d'une oui. identité vraiment
patriotique.
Patriotique, mais qui se fait à partir de plusieurs composantes militaires, ouais. idéologiques, de propagande, syndicale, économique, etc. Et pourtant, 89 arrive, 89 ne tombe pas du ciel, 89 ce n'est pas la tempête comme Lothar il y a quelques années, 89 c'est le résultat d'une dégringolade qui commence, moi je poserais comme jalon, en 1964. En 1964 éclate dans ce pays ce qu'on appelle le scandale des mirages. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement suisse avait lancé un programme de construction de la bombe atomique suisse. On se bricole une petite atomique, n'est-ce pas? Et ce programme, il avance. Il y a une initiative qui est lancée par des milieux pacifistes qui vise à interdire les armes nucléaires. Et le 1er avril 1963, cette initiative, elle est balayée par le peuple. Hein, 2/3 des voix contre l'initiative. Le département militaire fédéral jubile. Mais il jubile et il va de l'avant. On achète les Mirages, il faut acheter un avion capable, et c'est, je l'invente pas, hein, c'est les documents du Conseil fédéral qui le disent, un avion capable de porter une bombe atomique jusqu'au-dessus de la ville de Moscou. Donc on est dans les folies de grandeur et on se lance dans l'achat des Mirages, dont l'achat va dépasser largement, pratiquement de 80%, le coût prévu. C'est un énorme scandale qui va coûter la tête au commandant en chef de l'armée en 64 et qui va amener Paul Chaudet, chef du département militaire fédéral, le vaudois Paul Chaudet, radical, va l'amener à démissionner. Du coup, ce pays qui était une armée voit sa direction, le département militaire fédéral, et le chef absolu de l'armée, hein, démissionner. C'est le début de la crise. À cela s'ajoutent évidemment d'autres éléments. La crise commence en 64, mais je dirais, il y a un élément qui entre en ligne de compte, historique. Les années 60, ce sont les années de la généralisation des postes de télévision dans nos salles à manger. Et à l'époque, il n'y a pas 36 000 chaînes. À l'époque, la SSR a le monopole et on n'échappe pas, quand on est à table le soir, on n'échappe pas au téléjournal. On ne peut pas tourner sur une autre chaîne qui diffuse de la musique. Or, qu'est-ce qui passe ? Tous les soirs, pour la génération qui est la mienne, hein, j'ai commencé au début en disant que j'étais militant depuis 45 ans, la génération qui est la mienne, on était à table le soir et on voyait en différé de quelques heures, les images des atrocités commises au Vietnam. Et on voyait les images aussi de cette puissance militaire qui avait été présentée comme la plus grande puissance militaire du monde, capable de libérer l'Europe du joug nazi, cette puissance militaire en train de perdre face à une armée de va-pieds nus. Et ça, c'est quelque chose qui a joué dans les consciences. Donc on commence à voir crise au département militaire fédéral, crise de la légitimité du discours guerrier. À cela s'ajoute ce qu'on a appelé mai 68, c'est-à-dire s'ajoute une radicalisation, une prise de conscience anti-autoritaire, anti-militariste et pacifiste de la jeunesse, y compris en Suisse, pas seulement à Berkeley et à la Sorbonne, y compris en Suisse. En Suisse, en septembre 1967, la police zurichoise a tiré des balles de caoutchouc contre des jeunes qui sortaient d'un concert des Rolling Stones. On n'a pas mesuré ce que c'était la chose, mais en juin 68, ces mêmes jeunes vont donner lieu à l'émeute du Globus à Zurich, hein, Globus Kraval, comme ils l'appellent en bon français aussi, une émeute anti-autoritaire. Et quand vous êtes anti-autoritaire, vous n'êtes pas anti-autoritaire uniquement contre l'autorité de papa et l'autorité de la police, vous êtes anti-autoritaire aussi contre l'armée. À Genève, vous avez la même chose. Le 13 mai 68, vous avez 3 000 jeunes dans la rue pour protester contre la tenue des journées militaires, journées durant lesquelles l'armée aurait dû s'exhiber à Genève. Et tu me parlais tout à l'heure d'Éric Descarreaux. Eh bien, c'est avec Éric Descarreaux, moi j'ai vu la photo encore l'autre jour, 3000 jeunes qui sont dans la rue pour protester contre les journées militaires. Donc il y a l'antimilitarisme qui prend une place aussi extrêmement importante. Ensuite, je parlais tout à l'heure d'un substrat social qui légitimait ce pays armé, c'est le fait qu'il n'y avait pas de grève. Or, il y a quelque chose qui intervient au début des années 70. D'abord, à Genève et au Tessin, en 1970, il y a des grèves qui éclatent. En 72, il y a une vague de grèves dans la métallurgie genevoise. 74, 75, il y a une série de grèves à Bienne, à Neuchâtel, des grèves qui mettent du coup à mal cette idée de « on est tous dans le même bateau ». On n'est pas tous dans le même bateau. On n'est pas tous dans le même bateau. Et à cela s'ajoute encore des grèves en 77 à Genève, la grève nationale des typographes en 1981. C'est énorme. Il y a des choses qui modifient ce substrat social qui faisait la stabilité de la Suisse. Viennent là-dessus trois autres éléments, quatre autres éléments. La question de l'objection de conscience. En 1900, dans les années 50, il y a bon an, mal an, 20-25 objecteurs. Dans les années 80, on est à, le record, c'est je crois, 86, 788 objecteurs en une année. Et dans les années 80, bon an, mal an, c'est l'équivalent de 800 ans de prison qui sont décrétés chaque année par les tribunaux militaires contre des jeunes qui ne veulent pas apprendre à tuer et qui se retrouvent en tôle avec des droits communs, y compris des assassins. Et ça, c'est le gros scandale. Dans ce pays, la justice militaire, les militaires sont juges et parties et condamnent les jeunes à des centaines d'années de prison. Moi, j'étais témoin dans un procès d'un objecteur. Il a eu 18 mois. 18 mois de tôle. Sa mère était en larmes, effondrée. 18 mois de tôle. Et ce truc-là a marqué aussi, de manière très importante, les consciences. Autre élément qui entre évidemment en ligne de compte, c'est toute la question du contexte international. En 1979, en décembre 79, le sommet de l'OTAN nous fait un grand cadeau de Noël. Il décide l'augmentation des budgets militaires de tous les pays de l'OTAN et il décide l'installation des euromissiles en Europe, des Cruise et Pershing, pointés sur l'Union soviétique. De l'autre côté, l'Union soviétique a, elle, je ne sais plus combien, je crois 1200 SS-20, donc dotés d'une tête atomique, pointés sur l'Allemagne, sur l'Italie. Et là, on est dans une situation dans laquelle les armes atomiques existantes à travers la planète permettraient de détruire 40 fois la planète. Et là-dessus, il se passe quelque chose. Décembre 82... 1 million de personnes contre l'arme atomique dans les rues de New York et octobre 22-23 octobre 1983, des millions de personnes en Europe, en Allemagne, en Italie, en Espagne, contre les euromissiles. Et d'ailleurs, en Allemagne, les manifestants avaient un slogan, c'était « Liber rote als tote », plutôt rouge que mourir. Et ça donne la dimension de la chose. Donc il y a un truc à l'échelle internationale qui, évidemment, se traduit aussi en Suisse. En Suisse, les manifestations contre les euromissiles, il y en aura deux, et c'est 50 000 personnes chaque fois. C'est énorme. Et ces 50 000 personnes trouvent quelque chose sur la place fédérale à Berne dans l'expression « aber subito ». C'est du bon allemand, mais tout de suite. Mais tout de suite quoi ? Tout de suite le désarmement. On ne va pas l'attendre ad aeternam. Tout de suite le désarmement. Or, en Suisse, on a un moyen pour agir sur les institutions, c'est l'initiative. D'où l'initiative pour une Suisse sans armée. À cela, évidemment, il faut encore ajouter d'autres éléments. Le coût de l'armée, en 89, l'équivalent de le coût de la défense nationale équivaut à 13 millions de francs par jour. 13 millions de francs par jour. Hein, au moment où les gens commencent à avoir des problèmes avec l'AVS, où il commence à y avoir des problèmes avec de chômage, des problèmes sociaux. L'armée, la défense nationale nous coûte 35 milliards par an, donc 13 millions par jour. 13 millions par jour. Et ça aussi, c'est quelque chose qui touche la population. Et enfin, évidemment, tout ça s'armait pourquoi ? Contre l'ennemi soviétique. Mais l'ennemi soviétique, s'il nous lançait juste une bombe atomique, hein, c'est pas avec les chars d'assaut, avec les avions de combat et avec les Pinzgauer qu'on va y répondre. Est-ce que c'est le défi ? Est-ce que c'est ça ? Ou est-ce que le défi, c'est la pollution, parce qu'on parle déjà de pollution en 89. Est-ce que le défi, c'est le défi soviétique ou ce sont les migrations humaines? Est-ce que le défi, c'est l'armée soviétique ou c'est ce qui vient de se passer quelques années plus tôt, en 26 avril, Tchernobyl? Est-ce que l'armée va nous défendre des radiations de Tchernobyl? Donc là-dessus, au fond, le problème que le GSSA est capable de faire ressortir, c'est que face aux défis, face aux risques de l'époque, l'armée, c'est juste faire comme construire les fortifications, comme si on avait maintenu les fortifications et les bastions à Genève pour faire face à la guerre moderne. On en est à ça. Donc, une perte de légitimité du discours militaire qui fait que tout le discours, il faut être capable de riposter. Rencontre un élément nouveau. Il rencontre Gorbi, Mikhail Gorbatchev. Mikhail Gorbatchev, depuis 1985, il est à la tête du Parti communiste de l'Union soviétique et de l'Union soviétique. Et Gorbatchev, avec son équipe, il a compris que la course aux armements, c'est ce qui est létal, qui est destructeur pour l'Union soviétique, parce qu'une part énorme des richesses nationales produites partent dans cette compétition à l'armement avec les Américains. Donc Gorbatchev lance le processus de désarmement, hein, les accords de désarmement, la rencontre Reagan-Gorbatchev à Genève ces années-là, etc. On entre dans une logique où l'ours, le plantigrade soviétique, capable d'intervenir, de venir te bouffer, il n'est plus là. Où il n'a plus les griffes aussi affûtées. Donc là, ça crée une perte de légitimité de l'institution militaire. Et puis, je dirais, le dernier élément, c'est l'ennemi intérieur. L'ennemi intérieur, donc, depuis la création de l'armée suisse n'a jamais tiré un seul coup contre un ennemi extérieur. J'en ai parlé tout à l'heure durant les années deuxième moitié du 19e et jusqu'en 1932 à Plaine de Plainpalais, l'armée intervient contre l'ennemi intérieur, c'est-à-dire les manifestants. En 68, c'est le Jura qui est occupé militairement par l'armée. Le Jura, qui aspirait à devenir un canton indépendant, est occupé pendant un mois par la troupe. En 1975, à Kaiserhaus, des milliers de jeunes ont occupé le chantier de construction de la centrale nucléaire, se sont installés, et le Conseil fédéral hésite, mais ouvertement et publiquement, et il imagine de pouvoir envoyer l'armée contre les manifestants anti-nucléaires. Aujourd'hui, on sort du nucléaire, mais c'est contre ceux qui ne voulaient pas entrer dans le nucléaire qu'on est prêt à envoyer l'armée. Et on prend encore... Prenons les exercices. Hein, les exercices généraux, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Là, on entre vraiment dans la mentalité malade de certains stratèges, mais au-delà du côté complètement délirant, on est dans quelque chose qui nous donne la vraie mesure de l'engagement de l'armée. L'ennemi est intérieur. L'ennemi est intérieur dans tous les exercices des années 80. Chaque année, l'armée fait un exercice général avec un scénario, mobilisation générale, et on en parlera jeudi soir, mais tous les exercices voient l'armée intervenir contre l'ennemi intérieur. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, qui prouve que même ceux qui nous propagandent l'armée comme étant l'outil de la défense, etc., etc., n'y croient pas une minute, n'y croient plus une seule seconde. La Suisse a passé un accord dans les années 80 avec le gouvernement du Canada, accord qui dit que en cas d'agression militaire contre la Suisse, un mécanisme automatique se met en place pour que le siège du Conseil fédéral, des principales banques, des principales industries et notamment des industries chimiques soit automatiquement transféré dans l'état du Nouveau-Brunswick au Canada. Ce qui veut dire qu'ils ne croient pas une seule seconde que l'armée est là pour nous défendre, est capable de nous défendre. Autre élément...
Donc le concept même de réduit national...
Sans parler du réduit national. le réduit national, c'est quoi? Ce sont les montagnes. Mm-hmm. Or, la théorie était toujours celle-là. Hein? En cas de guerre, on se retire dans les montagnes et l'ennemi aura à souffrir dans les montagnes. Mais dans les montagnes, il y a moins de 20% de la population du pays qui habite. Hein? En fond, c'était laisser le plateau, là où il y a plus de 80% de la population qui habite, aux mains de l'ennemi. C'est ça l'armée qui nous défend. Ces choses-là, elles sortent. Et puis, on découvre que parallèlement à l'armée qui est censée nous défendre, hein, certains ont constitué des armées secrètes parce qu'ils ne font pas confiance à l'armée. C'est la P26, c'est la P27. Oui. Et il y a un dernier élément dans tout ça, c'est le fait que dans les années 60 et 70, des recherches historiques sérieuses mettent à mal le mythe du général Guisan, mettent à mal le rôle de la Suisse dans la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas la vaillante armée de Guisan et les piou-piou suisses avec leurs mousquetons qui ont évité l'invasion de la Suisse par Hitler. Ce sont les services rendus dans la vente de l'or allemand à l'échelle internationale qui ont fait que l'état-major de la Wehrmacht a envisagé à un moment l'invasion de la Suisse, mais ils ont considéré que d'avoir une Suisse neutre et disponible, indépendante à ses portes, permettait de faire du commerce et était utile à l'Allemagne. Voilà. Donc là aussi, tout ça est mis à mal et quand l'appareil politique, le personnel politique de ce pays, qui a été éduqué dans cette idée, comme je disais au début, hein, le Conseil fédéral se trompe. Il a raison, mais il se trompe. Ils ont été éduqués dans cette idée-là. Et donc, ça fait aussi une conformation mentale, hein, une manière de voir les choses. Je te donne un dernier exemple parce que je parle trop. Le 9 novembre 1989, j'ai un débat contradictoire à Neuchâtel avec une philosophe genevoise socialiste qui s'était exilée à Neuchâtel parce que le Parti socialiste genevois soutenait Jean Ziegler. Elle s'appelait Jeanne Hersch. J'avais un face-à-face, un débat contradictoire à l'université avec Jeanne Hersch sur abolir l'armée, oui ou non. En arrivant à Neuchâtel, les copains viennent me chercher en voiture à la gare et ils m'amènent à la salle où il y a le débat. Et dans la voiture, on entend les nouvelles. À Berlin, ils sont en train d'ouvrir le mur. Et dans le débat, à un moment donné, je dis, mais écoutez, même à Berlin, ce soir, ils sont en train d'ouvrir le mur et nous, on reste renfermés sur une... Et dans la salle, comme un pantin, mais comme... Tu sais, ces boîtes d'où sort le pantin, ben, de cette manière-là, se lève comme un pantin, François Jeanneret, président de la commission... de politique extérieure du Conseil national, pas le dernier des couillons, si tu me passes l'expression. Mm-hmm. François Jeanneret se lève, il ment, c'est un menteur, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Que le mur de Berlin tombe, ce n'est pas possible. Ça montre que ces élites-là qui dirigeaient le pays n'étaient plus que victimes de leur propre propagande et n'étaient plus en mesure de comprendre ce qui se passait réellement dans ce pays. Ce qui s'est passé entre 64 et 89, c'est une succession de choses que le GSSR a été capable de synthétiser par sa campagne. Il a été capable de lui donner un débouché. Il a été, voilà, l'accoucheuse de quelque chose de plus large que la simple volonté des militants du GSSA.
Oui, parce que c'est vrai que quand on parle d'armée suisse comme ciment du peuple, on peut se souvenir que jusque dans les années 80, au début des années 80, il y avait cette notion de dire on grade à l'armée pour faire une carrière également dans son domaine professionnel. Enfin, il y avait vraiment tout un embrigadement vraiment de tout un chacun. Et en 82, eh bien, justement, c'est la fondation du GSSA autour, justement, parce que là, on était arrivé peut-être à un temps historique, comme tu viens de nous en faire la démonstration, qui était propice à ce que l'on dépasse certains écueils. Alors, on va le rappeler. C'est vrai que tu en as beaucoup dit. C'est extrêmement intéressant. Mais on va rappeler les dates des conférences. Donc, le jeudi 31 octobre, c'est dans quelques jours, à 20h. Ce sera donc avant 1989, quand la Suisse était une armée.
Avec un sous-titre, un mythe mité.
Très bien. Et ce sera toi-même qui donc la présentera le mercredi 13 novembre. Depuis 1989, la Suisse n'est plus une armée et elle sera présentée par Tobias Schneebly. Et puis ensuite, le mardi 26 novembre, la fête d'anniversaire et la table ronde entre représentants des mouvements de hier et d'aujourd'hui, avec le libellé suivant des mouvements sociaux, paix, climat, féminisme, migration, pour décider d'un autre avenir. Toutes ces conférences, elles ont lieu à 20h, l'entrée est libre. Ça se fera au Café Gavroche, boulevard James Fazi, au 4 boulevard James Fazi, ici à Genève. Et il y a un petit chapeau à la sortie, et c'est organisé par le groupe pour une Suisse sans armée. Juste pour en terminer, effectivement, tu as parlé, parce que là, on a parlé beaucoup, beaucoup jusqu'à 89. Les révélations concernant l'armée secrète P26, P27, les services de renseignement clandestins, c'est juste un peu après, c'est dans les années 90, hein, début des années 90, je crois.
C'est 90, mais la chose est déjà sortie. Elle sort déjà à ce moment-là parce que il y a en 89 l'affaire COP.
Ah, oh là là.
L'affaire COP, c'est-à-dire le fait que la ministre de la Justice, sachant que son mari est impliqué dans une sale affaire de blanchiment d'argent, lui téléphone pour lui demander de démissionner avant que l'enquête... Sur la base de ça, ce sont donc les Américains qui ont... qui est l'agence antidrogue qui a enregistré le coup de fil et qu'il a envoyé à Jean-Pascal Delemurat, qui était à l'époque président de la Confédération, et ça a déclenché l'affaire COP. Madame COP a dû démissionner et il y a eu création d'une commission d'enquête parlementaire. Le principe de la commission d'enquête parlementaire avait été décidé en 1964 à propos de l'affaire Mirage. On retrouve les choses. Et cette commission d'enquête parlementaire, elle tombe des nues quand elle tombe sur les documents qui montrent l'existence de deux structures secrètes, la P26 et la P27, qui avaient d'ailleurs prévu dresser des listes, et j'y suis sur ces listes, de gens à interner au parc des Bastions en cas de situation de conflit. Ils avaient prévu qu'un certain nombre de militants à Genève soient arrêtés et internés dans le parc des Bastions. Il y a des grilles autour, voilà.
Ok.
Et ces gens-là prétendaient nous tenir le discours sur la démocratie suisse qui nous permet de poser... On est tellement démocratique qu'on peut même poser le problème de l'abolition de l'armée. Et un des messieurs avec lesquels j'ai dû débattre probablement le plus grand nombre de fois, M. Jacques-Simon Aigli, qui débattait face à moi sur l'existence de l'armée, donc comme si c'était un droit démocratique. Mais de l'autre côté, il était membre de cette structure qui prévoyait de m'interner au parc des Bastions. Si ça, c'est démocratique.
Incroyable. Oui, non, je pensais qu'on parlait du scandale des fiches.
Ah oui, après, scandale des fiches, voilà. Évidemment, 900 000 fiches constituées sur des citoyens qui avaient, qui ne correspondaient probablement pas à l'idée qu'on se faisait du citoyen soldat.
Absolument.
Voilà.
Enfin, sur cela et sur plein d'autres choses, eh bien, ces trois conférences reviendront, j'imagine.
Évidemment.
Bien. Et alors, selon toi, et pour en terminer, parce qu'on va pas en dire plus, hein, les personnes se mobiliseront et j'espère que peut-être enregistrerons-nous ces conférences, qui sait. Mais pour en terminer, Paolo Gilardi, en te remerciant encore d'avoir pris ce temps-là et d'avoir nous avoir informé de toutes ces notions qui sont pas évidentes, selon toi, le temps est-il venu, pourquoi pas, de relancer quelque chose de similaire, de dépasser dans un monde qui nous assiège et qui est de plus en plus violent et dans lequel certains disent même que l'on est dans une reproduction hein, d'une escalade de l'armement, dans une forme nouvelle peut-être, larvée de rapports militaires entre les pays, également par des opérations sous couvert, enfin plein de choses comme ça. Qu'en est-il selon toi de la situation? Est-ce qu'elle est propice à ce que eh bien, le GCSA puisse par ailleurs faire le travail qui est le sien et de dire eh bien, nous pourrions revenir sur le rôle de l'armée et pourquoi pas retenter de l'abolir?
Dans les années 80 et 90, les mouvements pacifistes et antimilitaristes ont obtenu, d'une part, le traité international pour la limitation des armements stratégiques. Deuxièmement, ce qui a été obtenu, c'est dans les années 90, c'est la création du service civil. Et a été obtenu aussi, même si ça, pour finir en votation, le peuple a accepté l'achat des FA-18, mais ce qui a été obtenu, c'était aussi une réflexion sur le rôle des avions de combat et des dépenses militaires dans le pays. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate que Trump et Poutine ont pris les accords de 1984 de désarmement et ils les utilisent quand ils ont un problème de papier toilette à la maison. Je m'excuse
mais c'est
comme ça. Deuxièmement, au niveau du service civil, le service civil est remis en cause aujourd'hui par l'appareil politico-militaire. Troisièmement, on s'apprête à dépenser 8 milliards pour acheter des avions de combat. Donc je crois que là, il y a la forme. Elle est à voir. Mais il y a urgence de relancer à l'échelle national et international, un mouvement antimilitariste et un mouvement pour le désarmement. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que des êtres absolument incontrôlables, comme Donald Trump, comme Poutine, mais comme d'autres, hein, comme Macron, comme Boris Johnson, ils ont les codes nucléaires et ils pourraient déclencher une guerre nucléaire. Ils pourraient déclencher quelque chose et on voit la manière dont, par exemple, Trump a retiré les troupes de Syrie. Il y a là quelque chose d'extrêmement inquiétant parce que ces gens-là, ces grands malades qui nous dirigent, disposent d'un pouvoir de destruction qui est énorme. Et je crois que de ce point de vue-là, la bataille pour le désarmement et pour la destruction des arsenaux atomiques, elle est fondamentale si on veut éviter l'accident qui est vite arrivé.
Et on observe également l'utilisation d'armes non conventionnelles, typiquement en Syrie du Nord ou au Rojava, par exemple, le phosphore blanc, et par ailleurs dans d'autres lieux également.
Le white phosphorus a été utilisé d'abord par les Américains en Irak.
Tout à fait, absolument. Et à de nombreuses reprises. Et également, on voit l'armée dans la rue de plus en plus. Là, on voit ces émeutes qui apparaissent ici et là, et on voit que l'armée est utilisée également comme supplétif à la police. Et que
évidemment.
Ça pose également un problème.
Mais j'ai vu hier soir des images de soldats irakiens fraternisant avec les manifestants.
Ça, c'est un très bon signe. On s'arrête là pour aujourd'hui.
On s'arrête là.
Merci beaucoup, Paolo Gilardi. On le rappelle, ces trois conférences, le jeudi 31 octobre, le mercredi 13 novembre et le mardi 26 novembre. Le site internet, c'est www.gssa.ch. On invite toutes les personnes, bien entendu, à venir assister à ces conférences. L'entrée est libre. Ça se situe au Café Gavroche, qui se situe, lui, au 4 boulevard James Fazi, ici à Genève. Merci, Paolo Gilardi, et à bientôt.
Merci à toi, William.